Carrefour.
Quand vous me dites « Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protèges slip larges Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et notre zapping, on commence avec Charles Matin. Faut-il interdire définitivement tous les parcs avec animaux ? À Antibes, le célèbre zoo marin du Marineland vient de perdre un deuxième orque en 5 mois. Des décès prématurés qui seraient dus à leurs conditions de captivité. D'après Muriel Arnal, elle est la présidente fondatrice de l'association One Voice.
Depuis 2019, nous remettons à la justice et au ministère des rapports sur la santé d'Inouk, qui était extrêmement dégradé. Le stress faisait qu'il rongeait le mur du bassin et il avait les nerfs de chacune de ses dents à vif découverts. Leur faire des numéros de sauts sempiternellement les mêmes, c'est très ennuyeux pour elle. Pour obtenir cela, il faut les priver de manger et donc c'est un grand stress.
Alors il y a déjà une loi qui est passée, hein, à partir de 2026, les spectacles avec animaux seront interdits en France. Ça concerne les cirques, les parcs, comme ça, les parcs avec des spectacles d'animaux. En revanche, on élargit la question, est-ce qu'il faudrait interdire tout simplement les parcs avec animaux.
Les parcs animaliers, oui, moi je suis complètement d'accord. Les animaux ne sont pas des jouets, en fait. C'est pas des objets pour nous divertir. Je comprends l'envie d'aller voir des animaux. Elle est humaine, je la partage. Moi aussi, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble un lion en vrai, à quoi ça ressemble un loup en vrai. Enfin, je comprends. Mais c'est là que je pense que collectivement, on doit se poser la question de comment est-ce qu'on fait pour que ces animaux ils soient le mieux possible. Je pense par exemple aux États-Unis où il y a dans des parcs nationaux, je pense à celui de Yellowstone qui est le plus vieux et le plus grand parc, des animaux sauvages en liberté, des ours, des loups, des bisons, etc. La question c'est, et ça je trouve ça intéressant, parce que c'est-à-dire qu'ils vivent leur vie et que les humains peuvent cohabiter avec, passer voir, etc. Mais on ne dérange pas la manière dont eux vivent. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'on ne cohabite pas avec des animaux dans un parc animalier. On les utilise pour se faire plaisir. Je pense que ça serait tout à notre honneur d'imaginer d'autres manières de cohabiter avec la faune. Et je crois que, d'ailleurs, ça dit quelque chose de notre civilisation, de notre société, où on pense qu'on est tellement différents de la nature et des animaux que finalement on peut les utiliser un peu comme ça nous arrange pour se faire plaisir. Et je pense que ça dit beaucoup de la manière dont l'humain se voit aussi comme finalement cette espèce de grand Manitou du monde qui peut utiliser selon son bon vouloir la nature, la faune et la flore.
Juliette.
Différentes choses. Alors pour les spectacles animaliers, effectivement, moi je suis entièrement contre, que ce soit cirque, que ce soit parc aquatique, spectacle d'orque, etc. Non, moi je suis totalement opposée à ça. Après aujourd'hui, il y a certains parcs animaliers, donc je pense aux zoos, hein, qu'il faut aussi un énorme travail
de préservation
des espèces. C'est-à-dire quand on veut refuser, parce que c'est ce qu'on fait, hein, on refuse une extinction de certaines races d'animaux. Je pense, prenons le panda, c'est celui à qui on pense en premier. On ne peut pas totalement se dire qu'il faut interdire les parcs animaliers qui font un énorme travail en termes de reproduction, de préservation de ces races-là, etc. Pour des animaux qui, en plus, vivent très bien et ne sont pas malheureux en captivité. Parce qu'aussi, les animaux, ils sont pas tous pareils. Il y a des animaux, effectivement, qui vont être extrêmement malheureux en captivité, qui ont besoin de grands espaces, qui ont besoin de pouvoir courir, de pouvoir... Et il y en a qui peuvent très bien le vivre, voilà. Et tant qu'ils sont pas maltraités, qu'ils sont pas utilisés, ça me dérange moins. C'est vrai qu'un tigre en captivité, j'ai du mal à voir comment le tigre peut être heureux, même si il est né en captivité, même si le personnel du parc fait un travail incroyable, etc. Il y a un côté dérangeant, même si évidemment on est tous contents d'aller voir un tigre de temps en temps, mais je pense que c'est un animal par nature qui ne peut pas être heureux en captivité.
Laurent.
Oui, mais moi j'ai un peu peur quand même qu'à force de vouloir effectivement aller dans ce sens-là, on supprime des pans entiers de la vie qui comportent une part de rêve. Et je suis désolé, mais moi, personnellement, je déteste le cirque, ça m'a toujours déprimé. Ouais. Mais un monde où on ne pourra plus emmener ses enfants dans un cirque voir des éléphants, ça, je suis désolé, ça m'attriste. Alors après, bah oui, bah, je trouve ça attristant. Après, je pense qu'effectivement, c'est très malheureux ce qui est arrivé à cet orque, mais je pense qu'il y a des tas d'autres parcs dans le monde où les orques ne sont pas déprimés. Et je pense que c'est aussi. C'est comme si on disait. J'ai repéré tel propriétaire de chien qui bat son chien, c'est atroce, on va interdire les chiens aux gens d'avoir des chiens domestiques.
Ouais, enfin, c'est différent, bah, c'est un spectacle.
Non,
c'est un spectacle dans le cirque. Par exemple, moi, tu vois, je vais te donner un exemple.
Moi, je pense que c'est il faut effectivement encadrer les choses pour que
on en discute. À partir de 2026, ça sera interdit de toute façon. Moi, ça faisait très longtemps que j'étais pas allé au cirque. J'y suis allé cet hiver avec les enfants.
Un cirque avec des animaux.
Non, alors justement. Il y a plus d'animaux.
Voilà.
Enfin, si. Je t'expliquais, il y a plus d'animaux sauvages.
Oui.
Mais ils ont encore le droit d'utiliser.
Il
y avait un petit un numéro avec des chiens, oui. Un numéro avec des chevaux. Et je t'avoue que moi, je suis de la génération des années 70-80. Donc, je suis allé au cirque voir des lions, des éléphants et tout. Aujourd'hui, je sais pas, ma vision a changé. J'ai vu ce numéro avec des chiens et même le numéro avec les chevaux. Ben, je me suis senti gêné, quoi. Enfin, je sais pas, je me suis dit, quelle utilité?
Les chevaux, quand ils sont apprivoisés.
Quelle utilité?
Bah, l'utilité, c'est qu'effectivement, il y a une part de rêve dans tout ça. Et que je suis désolé, mais je pense que tu as oublié le gamin que tu étais, qui voyait ça avec des étoiles dans les yeux. Et voilà. Et je pense qu'on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas non plus.
Mais après,
on peut encadrer les choses pour que, effectivement, les animaux soient bien traités. Et voilà. Mais
moi, ce qui m'interroge vraiment, parce que j'entends ce que tu dis sur la préservation des espèces, etc., mais c'est qu'en fait, on a tellement détruit les habitats naturels qu'aujourd'hui, on est obligé de recréer des conditions artificielles pour garder. Les espèces qui sinon disparaîtraient parce qu'on a détruit leur habitat naturel. Je pense que ça doit nous remettre en question.
Charles Matin, le hard discount a-t-il conquis le cœur des Français? L'enquête sur les enseignes préférées des Français vient de sortir pour l'année 2024 et pour la seconde année consécutive, c'est la marque hard discount Action qui a été élue numéro 1. Un succès rapide, fulgurant que nous décryptait ce matin Emmanuel Le Chypre.
Et ce sont effectivement les magasins Action qui arrivent en tête du classement général devant des marques bien plus connues parce que bien plus anciennes dans le paysage commercial français, à savoir Decathlon qui arrive deuxième, Leroy Merlin troisième, Picard quatrième. C'est une performance quand même assez exceptionnelle de la part d'Action.
Comment ça s'explique?
Alors ce qui séduit les Français, c'est une offre positionnée sur des prix très bas, une expérience d'achat jugée parmi les plus efficaces et agréables, 6000 références au total, dont 1500 proposées à moins de 1 €, ce qui permet de faire son plein de petits plaisirs sans trop entamer son pouvoir d'achat.
C'est peut-être une vue de l'esprit, mais j'ai le sentiment quand même qu'il y a encore quelques années, aller chez Action, bon, ça n'existait pas, mais de ce type de magasin, aller chez Lidl, c'était un peu, on était un peu gênés. Aujourd'hui, très clairement, le consommateur français dit, moi c'est le hard discount, c'est tel magasin, et il revendique.
Je pense que pour moi, on est à une conjonction de deux phénomènes. Un, la paupérisation des Français, parce que quand tu as plein d'argent, a priori, tu te tournes pas. Finis. Donc je pense qu'il y a quand même un vrai sujet de perte de pouvoir d'achat qui fait que les gens ont moins d'argent, donc ils vont dans du discount, qui s'imbrique avec une vraie attaque des réseaux sociaux, notamment du hard discount. Enfin, quand on voit les plus grands influenceurs, enfin de Lidl, c'est des influenceurs qui disent j'ai trouvé ça, c'est trop bien, etc. Et je crois toujours cette tendance à la surconsommation. Des gens qui veulent et moi ça m'arrive aussi, je dis pas, quand je vais chez Action t'as envie de tout acheter et puis en fait t'achètes tous ces trucs puis tu rentres chez toi, tu te sens pas plus heureux, ça encombre et en fait souvent c'est quand même des trucs faits en Chine par des enfants ou des gens qui sont dans des camps forcés, donc je pense que ces trois phénomènes forcément favorisent l'expansion de ce genre de hard discount, mais qu'il faut faire attention parce que tout ça c'est un peu trop beau pour être vrai, parce que quand t'achètes un truc à 1 €, il y a un problème quelque part.
Juliette,
je suis d'accord avec absolument tout ce qui a été dit.
Voilà. Comme quoi.
Je ne sais pas si j'ai quelque chose à rajouter, parce que je pense que vous avez raison de dire qu'effectivement, il y a une sorte de...
Décomplexion.
Ah, mais totale, décomplexion. Ouais. Et je pense que ça, c'est dû à la paupérisation des classes moyennes. Parce qu'en fait, les pauvres, ils ont toujours été cherchés dans le discount. Ouais. Mais que comme la classe moyenne, évidemment, perd en pouvoir d'achat, et elle a bien dû s'y mettre. Et ça a effectivement créé cette décomplexion totale du discount. Les marques ont compris qu'en fait qu'elles pouvaient être cool en faisant du discount et leur marketing a changé. La surconsommation qui est malheureusement le monde dans lequel on vit, le fait qu'il y a un problème quelque part quand on achète quelque chose à 1 euro, effectivement, ça c'est la base. Donc je ne sais pas quoi rajouter.
Laurent.
J'espère que Laurent a quelque chose à redire.
Non, j'ai quelque chose à redire, si ce n'est qu'effectivement, mais c'est facile à dire quand on a les moyens de le dire, c'est que je trouve paradoxal que quand les gens n'ont pas d'argent, ils ne soient pas attentifs au fait de dépenser mieux. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'effectivement, quand vous achetez des trucs à des prix cassés, bah, c'est la camelote qui va vous durer 2 jours et que donc finalement, à la fin des fins, c'est souvent un mauvais calcul. Voilà.
Mais il y a la satisfaction, comme le disait Lumière, de consommer.
Oui, mais ça c'est de la boulimie.
Et ma grand-mère disait, dit toujours d'ailleurs, le bon marché coûte toujours trop cher. Donc quand t'achètes un truc pas cher, t'es sûr c'est que ça va péter dans pas trop longtemps.
Et ben, comme beaucoup de grand-mères, elle était de bon sens, ta grand-mère. Allez les GG, la France christianise-t-elle à nouveau ? En ce Vendredi Saint, c'est Vendredi Saint, nous apprenons que les baptêmes catholiques sont en forte hausse, et notamment chez les adolescents et les adultes, ce qui ne surprend pas la coach de vie Joëlle Dagosséaï.
Moi, je m'en réjouis. Je trouve que pendant des années, on nous a vendu les valeurs de la République comme étant une nouvelle religion. Ça ne l'est pas. Ça nourrit pas l'âme, ni le sens qu'on veut donner à sa vie. Bien sûr, on les respecte, mais ça n'est absolument pas une religion. Et on a voulu remplacer un peu la religion par ça. Donc moi, je suis plutôt contente. Et je l'observe parce que ma fille est rentrée de l'école et elle m'a dit « Maman, est-ce qu'on fait le carême ?» Je lui dis « Mais pourquoi tu me demandes ça ?» Elle me dit « Non, on en a parlé avec les copains. » Donc ça, c'est quelque chose que j'aurais jamais vu, même de mon temps.
Ils parlent de ça dans les cours de
religion. Exactement. Et donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de naître, parce que les jeunes cherchent à combler ce vide. Moi, je pense qu'il y avait un vide dans la société qui ne peut pas se remplacer ni par des valeurs de la République, ni par la consommation. Et les jeunes se réapproprient ce à quoi ils peuvent se raccrocher.
Laurent Dandrieux, croyant, pratiquant, est-ce que ça te réjouit ?
Oui, bien sûr, ça me réjouit. Je trouve que c'est un signe d'espérance. C'est une tendance qui est déjà un peu ancienne. Hein. Le nombre de baptêmes augmentait tous les ans, mais là, ça s'accélère depuis 1 an, 2 ans.
C'est pas non plus une avalanche.
Non,
il y a
un effet mécanique. C'est-à-dire que moins les gens sont baptisés quand ils sont enfants, plus forcément il y en a qui vont se tourner vers l'Église plus tard. Mais là, il y a une accélération depuis 2 ans. Et ce qui est très étonnant, c'est que normalement, ce genre de conversion de jeunes, normalement, ça touche les grandes villes, ça touche les paroisses, les diocèses où il y a des patronages, où il y a une action menée auprès des jeunes assez forte. Et là, aujourd'hui, ça touche des diocèses complètement sinistrés, où il n'y a aucune mission.
Comment tu l'expliques ?
Je l'explique parce que, justement, c'est une tendance de fond. Alors, il n'est pas totalement exclu que l'Esprit-Saint joue son rôle là-dedans, mais plus fondamentalement, plus logiquement en tout cas, on sait tous qu'on vit dans une société de plus en plus angoissante parce que de plus en plus déstructurée, où il n'y a pas de repères, on ne sait pas très bien pourquoi on est là, on ne sait pas à quoi se raccrocher, les familles sont éclatées de plus en plus, la société devient de plus en plus anxiogène, et par réaction, il y a de plus en plus de gens, et notamment de jeunes, qui sont en quête d'un idéal, ils vont chercher un idéal qui a fait ses preuves depuis 2000 ans, qui est assez solide, qui n'a pas bougé pendant tout ce temps, et qui effectivement a le mérite non seulement de vous donner un sens à cette vie, mais en plus de vous dire que cette vie ne s'arrête pas après la mort et que vous vous en prenez pour l'éternité, ce qui est quand même une assez bonne nouvelle.
Lumière Lapré, militante écologiste, oserais-je dire, de tendance de gauche.
Tu peux le dire, gauchiasse.
Lumière, ça te parle aussi
Oui, tout à fait.
Ce qui se passe en ce moment dans l'Église.
Tout à fait, moi je me suis convertie il y a quelques mois. Année.
Alors, est-ce que vous convertis parce qu'auparavant
Moi, j'ai une famille athée, anti-religieuse, très fortement, de fonctionnaires hussards de la République, pour qui la République guide l'action au quotidien.
Donc, tu t'es converti, on en a parlé, t'avais 12 ans, c'est ça?
Oui, mais bon, alors ça, je ne vais pas mentir, c'est parce que moi, je viens d'un milieu très populaire où autour de moi, il n'y a que des immigrés portugais, polonais et italiens, et que tout le monde allait au cathé, et que moi, j'étais vraiment toute seule. Okay. Donc, je ne suis pas sûre que c'est vraiment le moment fondateur de mon chemin spirituel. Ce qui m'a beaucoup interrogée, c'est que j'ai fait du militantisme aux États-Unis, là où on travaille un peu sur les droits civiques et Martin Luther King, qui est la personne qui m'inspire le plus au quotidien, la totalité de son action à lui est inspirée par le christianisme. Donc ça m'a un peu interrogée. Je me suis dit, j'ai grandi avec cette idée que la religion, c'était pour les gens qui avaient peur de la mort et qui étaient un un peu débile, quoi. Enfin, c'est un peu ça avec lequel j'ai grandi. Et je me suis dit, bah, je vais me renseigner. Ce serait un peu dommage de ne pas se faire sa propre idée. Et j'ai rencontré énormément de chrétiens de gauche aux US et en France qui basent leur action politique, notamment, dans le christianisme social. Et on connaît des grandes figures, Gaël Giraud, ouais, de Cécile Duflo.
Et cette tendance actuelle de plus en plus d'adolescents, on le dit, d'adultes qui se baptisent, est-ce que ça te surprend ?
Ça ne me surprend pas parce que je crois vraiment qu'on est en train de toucher les limites de cette société capitaliste, violente, dans laquelle on est et qui est orientée sur la consommation, on en parlait juste avant. Et je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience collective de, un, on est toutes et tous dans le même bateau, notamment face à la crise climatique. Et mine de rien, c'est aussi ça que la religion nous dit, on est tous liés par une même communauté de destin. Et je pense que... moi, je ne le vois pas comme quelque chose ni de positif ni de négatif. Je pense que c'est une réaction cohérente, logique à l'ordre du monde dans lequel on est aujourd'hui, qui est franchement un peu flippant, moi, je trouve, quand même.
Allez, on termine avec ça, Pauline Matin. Êtes-vous, c'est une question grave. Plutôt chocolat noir ou chocolat au lait ? À 3 jours de la chasse aux œufs et poule au chocolat, les amateurs ont forcément leur préférence. Mais sachez que l'un des deux, blanc ou au lait ou noir, est bien meilleur pour la santé que l'autre.
Noir.
Et Charles Magnin nous l'explique. Oui.
Le chocolat noir arrive en tête pour les Français, mais d'une courte tête, 55%. Alors évidemment, il ne faut pas en abuser, mais surtout en ce qui concerne le chocolat industriel, beaucoup de beurre, beaucoup de sucre. Mais si vous optez pour du bon chocolat noir, vous pouvez y aller. La science regorge d'études sur les bienfaits du cacao, plus précisément des flavanols, les substances contenues dans le cacao. Elles réduisent le risque de démence, elles améliorent les fonctions mentales, elles font baisser le risque de maladies cardiovasculaires, elles augmenteraient la densité de la peau ainsi que son hydratation. En fait, le chocolat rendrait beau et même intelligent.
Chacun son choix, effectivement, comme disait Paul juste à l'instant. Et sans justification, lait ou noir ?
Noir.
Paul ?
Noir.
Lumière ? Noir.
Juliette ? Au lait.
Lait ?
Je refuse de répondre à cette question. Le vendredi saint, jour où nous autres catholiques, nous sommes censés jeûner.
Bon, alors, j'accepte.